Bienvenue au Polysécur épisode technique. Je suis avec Yassir.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien et toi?
Très bien aussi. C'est vendredi, donc ça annonce un petit congé. Ça va faire énormément de billets. Donc, on va continuer sur notre lancée, dans le fond, notre troisième volet de ce qu'on devait aborder au niveau du bug bounty et les primes au bug, dans lequel on a parlé déjà du passé, on a parlé du présent. Maintenant, on va parler de l'avenir, de ce qui s'en vient, de ce programme-là, comment ça va évoluer dans le temps, comment est-ce qu'on va voir les choses évoluer. On va avoir trois grands axes dans lesquels tu m'as proposé, dans lesquels on va regarder ces éléments-là. On va regarder l'évolution de la plateforme elle-même, qu'est-ce que celle-ci va changer, comment les services vont se bonifier, vont aller dans ce sens-là. La deuxième, c'est les limites associées et les technologies émergentes qui vont venir bousculer cette chose-là. Donc, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du AI, l'intelligence artificielle, machine learning et le quantique, qui sont deux vagues de fonds qui s'en viennent, qui vont nécessairement avoir une influence très importante sur comment le bug bounty va arriver. Et quitte à trouver du bug bounty dans le quantique éventuellement ou dans le machine learning, parce que ça va être des axes aussi à regarder. Et la troisième élément qu'on va aborder, c'est l'évolution du monde de l'emploi, parce que essentiellement, le bug bounty vit sur du crowdsourcing. Donc, c'est pas des employés qui travaillent, qui font ce genre de travail-là. C'est vraiment du monde à la pige qui vont faire ça. Fait que ça va quand même évoluer et comment on va le voir. Fait que je vais te laisser commencer avec le premier volet.
Très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec toi. Effectivement, si on doit commencer par le premier volet, qui est un volet un peu plus terre à terre, aujourd'hui, ces plateformes-là, les plateformes de bug bounty, encore une fois, comme on l'avait dit, l'idée de base, c'est que, en fait, il faut leur appliquer ce qu'on appelle l'économie des plateformes. Et là, je vais faire une petite aparté avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il est essentiel de comprendre la différence entre une plateforme et un software normal. Parce que ces deux modèles de solutions sont en fait dirigés par des philosophies économiques qui sont radicalement différentes. Et c'est important de comprendre ça parce que des fois, moi, j'ai dans certains échanges, je discute avec des gens qui me parlent d'une plateforme qu'ils ont développée, mais plus je discute avec eux, plus je me rends compte qu'ils ont juste un software normal, sans plus. Alors que ce terme plateforme, il est un peu aujourd'hui galvanisé, tout le monde veut avoir sa plateforme, etc. Mais ça ne sort pas de nulle part normalement. Donc, les différences entre plateforme et software, principalement la plus fondamentale, c'est que le software, c'est une économie de la demande. C'est régi par une économie de la demande. En gros, il y a des besoins quelque part et on va construire un software qui répond à ce besoin-là. D'accord ? Là où quand on est sur une économie de la plateforme, en tout cas une vraie philosophie de la plateforme telle que ça a été pensée par les économistes, les philosophes, les entrepreneurs de l'économie collaborative et surtout celle des plateformes, c'est dirigé par une économie de l'offre. C'est-à-dire qu'on construit des offres et qu'on pousse les clients à consommer avec un effet de réseau, c'est-à-dire on va avoir un réseau de producteurs de services et un réseau de consommateurs de services qu'on va mettre en relation pour avoir ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est-à-dire une densification des interactions qui fait qu'il y a un effet réseau qui fait qu'on peut acquérir, par exemple, des parts de marché beaucoup plus vite que sur un modèle normal. Je vais quand même illustrer ce propos-là pour que tout le monde puisse peut-être un peu le visualiser. Par exemple, si on prend un des exemples les plus parlants, et d'ailleurs, on oublie que c'est une plateforme, si on prend l'iPhone d'Apple, hein, à la base, quand le téléphone a été lancé, le succès résidait bien entendu dans l'objet en lui-même, qui était design, qui était ergonomique, qui était super, mais la vraie force, c'était la plateforme, l'Apple Store. La vraie révolution, elle était là, c'est-à-dire que dans l'Apple Store, Apple, elle a réussi à convaincre des centaines de milliers de développeurs ou de sociétés de développement de développer tout et n'importe quoi et de le mettre sur la plateforme. Ils se sont pas dit, on va écouter les besoins des gens et on va leur développer des applications en fonction de leurs besoins. Effectivement, il y avait des applications qui répondaient à des besoins, mais par exemple, l'application qui faisait le son du sabre laser de Star Wars, je ne me suis jamais réveillé un matin où je me dis, il me faut absolument cette application pour que je réussisse ma vie. Pourtant, j'ai fait partie des gens qui ont téléchargé cette application et j'étais très content de jouer avec. Et c'est ça la force, en oui, fait, ces modèles.
Moi également. on a téléchargé la même
application. On est dans le même club. On est dans le club. Ou l'application qui faisait le meuh, là, de la vache. On tournait l'iPhone et ça faisait meuh, voilà. On a tous téléchargé des applications comme ça. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on crée une densité et on provoque, en fait, un besoin. Donc, il faut garder en tête à chaque fois que c'est ça la vraie force d'un modèle de plateforme. Et du coup, c'est une philosophie économique qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ce n'est pas un raisonnement intuitif du tout quoi, par rapport à l'économie classique. Après, les autres différences, c'est que très souvent, il y a des modèles économiques qui sont soit par de la licence d'accès, soit par des fees sur les transactions, hein, ce qu'on va trouver dans le bug bounty. Néanmoins, le premier élément, il est important. Donc, ces modèles-là de bug bounty, si on tire le fil plus loin, ils n'auront pas d'autre choix que de diversifier leur service, c'est-à-dire de faire en sorte que les hackers puissent proposer de plus en plus de choses sur cette plateforme-là et que de l'autre côté, les clients puissent consommer de plus en plus de services de la part de hackers. Sinon, c'est des modèles qui, à un moment, vont être tirés par le bas, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va créer de la précarité parce qu'à force de vouloir mettre des hackers en concurrence et de faire grossir les communautés n'importe comment, on va se retrouver potentiellement avec des hackers qui acceptent d'être payés 50€ une faille et qui s'en foutent. Et voilà, et en fait, une mécanique de dumping. Et dès qu'il y a du dumping, les marchés perdent leur valeur. Et du coup, on se retrouve avec ce qu'on appelle un effet négatif de réseau. C'est-à-dire qu'à un moment, l'expérience initiale qu'on avait commence à se perdre. Là encore, je vais donner un exemple. Facebook, au début, c'était génial. De plus en plus, il y a eu de monde. Et de plus, on s'est retrouvé avec tout n'importe quoi. Et donc, petit à petit, les gens rétropédalent. C'est ce qui arrive d'ailleurs petit à petit sur LinkedIn. Même si c'est un réseau professionnel, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire « Ah bah tiens, ça commence un peu à ressembler à Facebook. Pourquoi ?» Parce que dépasser une certaine masse critique d'utilisateurs, et si cette hantise de la qualité du matching des services et cette hantise de trouver le bon équilibre entre les producteurs et les consommateurs n'est plus du tout prise en compte, eh ben on se retrouve avec des plateformes qui échappent au contrôle, qu'on le veuille ou pas, parce que vous pouvez développer toutes les interfaces que vous voulez, les utilisateurs, après, ils font ce qu'ils veulent. Une plateforme sur laquelle on peut publier, même si vous dites c'est un réseau professionnel, tu auras toujours quelqu'un qui te dit seuls les génies vont pouvoir répondre à cette énigme, et ils vont te mettre une énigme avec des questions à la con sur LinkedIn, avec des gens qui répondent et tout, et tu ne pourras pas contrôler ça. Tu peux dire ce que tu veux, tu n'y peux rien. En fait, c'est voilà. Ou alors, double tape sur la photo pour voir le résultat de l'énigme et des gens qui tapent dessus avec des likes. Malheureusement, c'est l'effet négatif des réseaux. Donc, un des gros challenges de ces plateformes-là, ça va être d'un côté, contrôler cette communauté-là. Moi, j'insiste sur ça, diversifier des services et pouvoir justement faire en sorte de permettre d'élargir les périmètres d'intervention pour continuer de trouver des failles de sécurité de manière adaptée aux besoins des clients, parce qu'encore une fois, tous les clients ne sont pas matures pour se retrouver avec une horde de hackers d'élite qui leur trouve des failles à 200 000€ la faille, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà, tout le monde n'est pas Tesla, hein. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux en termes d'évolution. L'élément sous-jacent, ça va être ce que j'appelle, alors sans faire d'analogie avec le Bitcoin ou autre, mais ça va être ce que j'appelle la preuve de travail, mais la preuve de travail au sens humain. C'est-à-dire qu'une des questions que se posent des fois les clients sur ce genre de plateforme, c'est que tu peux lancer un programme et tu ne reçois pas de rapport. Qu'est-ce que tu peux conclure? Est-ce que tu ne reçois pas de rapport parce que les hackers n'ont pas du tout travaillé, ou est-ce que tu ne reçois pas de rapport parce qu'ils n'ont rien trouvé? Et la seule manière de répondre ça, c'est qu'il faut que tu aies une preuve du travail. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses voir est-ce que les hackers ont vraiment travaillé ou pas, ou est-ce qu'ils ont tapé ou pas. Et donc, ça passera par des solutions industrielles type VPN, quoi. Avoir des VPN sur lesquels l'idée n'est pas de contrôler en fait ce que font les hackers, mais juste être capable d'apprécier et de dire, en fait, ils n'ont pas du tout travaillé et du coup, ils n'ont rien trouvé. Et ça peut s'expliquer parce que le programme, les prix, les rewards ne sont pas très attirants, parce que le scope est tout petit, etc. Ou alors, ils ont vraiment cherché, mais ils n'ont rien trouvé. Et du coup, c'est une autre information qu'on va tirer. C'est, ben, en fait, l'application est a priori bien sécurisée. Donc, typiquement, on peut augmenter le niveau de reward pour inviter les hackers à redoubler d'efforts ou de créativité. Donc, tu vois, c'est ces deux axes-là qui me semblent être, à court terme, à moyen terme, l'extension naturelle de cette typologie de plateforme.
On prend le premier exemple, c'est juste de conserver la qualité de la plateforme puis l'évolution de celle-ci. Est-ce que tu as déjà des idées ou des visions sans, parce que là, je veux pas que tu divulgues des secrets commerciaux pour qu'ils vont t'amener. Parce que il y a un peu ta propre bien compagnie sûr, là-dedans. Mais dans quel axe général que tu vois que les choses vont, l'offre et la demande vont évoluer?
Écoute, moi je pense que comme je l'ai dit, c'est je t'en avais parlé dans le premier podcast quand on avait parlé. Nous par exemple, en plus du bug bounty, on a mis en place du pen test entre guillemets pour s'appuyer sur la communauté des hackers. Et on se rend compte que ça marche très bien pour les deux parties, c'est-à-dire aussi bien pour des clients. Parce qu'il y a des clients qui ont besoin, avant d'aller plus loin, de faire un pentest. Il faut accepter ça au bout d'un moment. Il ne faut pas forcer les clients à aller sur le bug bounty comme si c'était une solution miraculeuse. Ça a ses limites. Et donc, il y a des clients qui n'en sont pas encore là, qui ont déjà juste besoin d'un pentest méthodologique et donc pas d'une approche opportuniste comme le bug bounty. Et pour les hackers, ça leur donne en fait une nouvelle source de revenus plus stable que celle du bug bounty. Parce que c'est une réalité aussi. Tous ces indépendants qui travaillent, ben à un moment, sur le modèle du bug bounty, ça reste quand même un petit peu en mode concours. Et donc, des fois, ils peuvent fournir un effort sans être certains d'être rémunérés dessus. Donc, c'est très bien, ils acceptent la règle et tout. OK, mais je pense que nous, entrepreneurs, étant aussi des acteurs économiques, il nous revient aussi d'imaginer et d'incorporer de nouvelles voies pour leur permettre d'enrichir leurs revenus et encore une fois d'éviter des travers qu'on a vus avec d'autres plateformes dans d'autres secteurs que la cybersécurité qui ont fini par détruire purement et simplement certains métiers quoi. Donc voilà, je pense que la notion de service et de diversification de services va être essentielle, va être clé. On ne pourra pas y échapper. Je ne pense pas qu'on pourra échapper sur ça. Sur les autres, on pourra spéculer. Sur celle-là, je ne crois pas deux secondes qu'on pourra échapper à ça.
C'est intéressant. Puis de toute façon, on va voir comment ça va évoluer. Puis de toute façon, c'est essentiellement très difficile de prévoir comment les choses vont se matérialiser aussi. C'est-à-dire, ce que le confinement nous a appris, la pandémie nous a appris, c'est que prévoir plus que 6 mois devant nous, c'est quand même un défi assez important. Puis bien heureux ceux qui ont réussi à prévoir à 6 mois d'avance ce qui se passait dans la pandémie. Puis clairement, on l'a pas bien maîtrisé. C'est quand même une leçon d'humilité assez importante de commencer à regarder ça. De l'autre côté, la preuve de travail, je trouve ça très intéressant parce que pour moi, en tant que professionnel dans le milieu, c'est un défi d'avoir juste dans le pentest conventionnel, d'avoir une preuve de travail ou en tout cas une évaluation réelle de la portée de ce qui a été fait. Puis généralement, on se fie de façon aveugle à ce que le fournisseur nous dit. Je crois que ta plateforme offre un peu plus que ça. D'ailleurs, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un peu d'évolution justement pour augmenter cette confiance-là? Parce que dans le fond, c'est de bâtir la confiance entre les gens qui travaillent et ceux qui reçoivent le service, de s'assurer qu'il y ait ce maintien de ce lien de confiance-là qui est très important, puis qui est très important aussi pour la qualité de la plateforme. Là, parce que tu faisais des exemples des plateformes qui se venaient à se faire vicier avec le temps, mais je pense que cet élément-là, je sais que vous avez une stratégie, mais y a-t-il d'autres éléments qui sont à regarder de ce côté-là?
Bah, écoute, effectivement, là, ce que tu as cité, c'est-à-dire que typiquement, la capacité d'avoir une vue sur le flux, sur le flux, pour être un peu technique, HTTP des hackers hein, qui va aller taper sur les systèmes, c'est un premier élément de réponse assez concret en fait hein, et assez pragmatique et assez simple qui fait que bah déjà le client il a une notion sur c'est pas encore une fois j'insiste c'est pas de contrôler ce que font les hackers mais une couverture sur les tests qui sont en train de faire parce que la question fondamentale comme je l'avais dit au début c'est est-ce que les hackers ont travaillé ou pas. Et deux, s'ils ont travaillé, est-ce que je suis assez sécurisé ou est-ce que je dois m'améliorer? Donc, il y a ce premier point qui est essentiel. Et le deuxième, mais ça, c'est en filigrane et il n'y a rien de nouveau, c'est la capacité d'évaluer en continu les compétences des hackers. Et donc, d'être capable de les catégoriser, c'est-à-dire de dire qui est très bon sur tel métier, qui est très bon sur celui-là. Enfin, avoir des indicateurs qui permettent de mieux orienter de la part du client aussi, hein, c'est parce que c'est lui en fin de compte qui va décider, de mieux orienter qui est le plus pertinent pour faire du pentest et qui est le plus pertinent pour faire du bug bounty, quoi. Mais tu vois, globalement, c'est ça le sujet. Après, si je dois sauter le pas, parce qu'on arrive presque à la deuxième vague, tu vois, quand on m'a cité au début sur comment tout cela va évoluer, la réalité, c'est que toutes les solutions de détection et de gestion de vulnérabilité vont converger. Scanner automatique, pentest, bug bounty, voilà, scan de surface d'exposition. En fait, on est arrivé à un stade où le marché est tellement défragmenté que les clients vont essayer de recentraliser tout ça pour pouvoir à un moment avoir plus de cohérence dans la lecture de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, toutes ces solutions, qu'on le veuille ou pas, elles vont converger. À un moment, tout ça va se rapprocher et c'est ce que commencent à faire, par exemple, les SOC. Hein. L'idée du SOC, c'était à un moment d'avoir des endroits centraux où on va avoir une vision globale sur un peu tous les incidents qu'on a, mais dans la détection et la gestion des vulnérabilités, on va avoir le même phénomène qui va se produire. Et donc, on va avoir de plus en plus de plateformes qui vont essayer de centraliser tous ces aspects-là d'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, le grand défi des clients, ou en tout cas des équipes opérationnelles, c'est de sortir du sens de toutes les données qu'ils sont en train de lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation d'outils de reporting. Il y a des reportings dans tous les sens, avec des red flags, avec des indicateurs, des camemberts, des voilà. Mais quand vous avez 300 rapports dans tous les sens, est-ce qu'en fin de compte, on n'a pas créé l'inverse de ce qu'on voulait faire? Est-ce qu'en fin de compte, ça devient plus quelque part un élément juste de tranquillité psychologique où on voit du vert, du rouge, et en fait, on se met en mode zombie et on avance parce que du coup, on n'arrive plus à suivre le rythme. Donc, le grand défi, c'est comment tous ces outils-là vont converger, et ça, c'est la deuxième vague, comment elles vont se compléter entre elles et comment on va sortir du sens aujourd'hui. Parce que comment on prend une décision rapidement? Sur quoi il faut se concentrer? Où est-ce qu'il faut mettre son effort rapidement? Qu'est-ce qu'il faut corriger rapidement? Qu'est-ce qu'il ne faut pas corriger rapidement? Alors, si on rajoute sur ça des fois que les entreprises sont dans des modèles décentralisés avec des entités qui n'ont pas la même maturité et autres, c'est là le gros défi. Et si tu vois, c'est là où typiquement on rentre dans des débats avec le rôle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Bien entendu, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent aider, mais j'ai presque envie de te dire que, sans rentrer dans les débats techniques purs et durs, une des grandes erreurs dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est que le terme intelligence artificielle induit une erreur qui est, à mon sens, très vicieuse et très dangereuse, c'est qu'on confond intelligence et calcul. En fait, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est des forces de calcul. C'est des machines qui ont, et des modèles qui permettent d'atteindre des niveaux de calcul d'un certain nombre d'opérations que le cerveau ne peut pas faire. Et donc, du coup, des modèles d'inférence qui peuvent nous sortir des similitudes, anticiper des choses et autres qu'on ne peut pas faire. Mais ça n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, ça reste quand même la capacité, en tout cas une des définitions de l'intelligence, parce que pareil, c'est un sujet à part entière, c'est la capacité à trouver des manières de résoudre des problèmes auxquels on est confronté pour la première fois. C'est là où on vérifie que quelqu'un est intelligent. C'est quand vous rencontrez un problème pour la première fois de votre vie et que vous trouvez une manière vous-même, voilà, que vous construisiez presque une manière pour résoudre le problème. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous entraîner dans machine learning. Là, on rentre dans le machine learning. Là, vous vous entraînez. Et plus vous allez vous entraîner sur les problèmes, plus vous allez augmenter votre capacité à résoudre ce problème-là. Mais cet input de base sur, c'est la première fois que je rencontre un souci et je crée quasiment la manière de le résoudre. Ça, je ne crois pas que la force de calcul puisse faire ça. C'est pas le débat. Donc, voilà, il y a ce premier biais qui s'est installé, mais on va avoir un grand travail de réflexion pour dire qu'est-ce qu'on va déléguer à la force de calcul que va être l'intelligence artificielle et sur quoi doit se concentrer le cerveau humain. Et à mon sens, ce qui nous manque aujourd'hui dans tous les modèles de reporting qu'on a et dans ces solutions-là vers lesquelles on se dirige, c'est des modèles systémiques. Pareil, je vais essayer d'illustrer parce que c'est des débats qui peuvent durer des heures et des heures. Par exemple, dans le modèle du bug bounty, on part du principe qu'on va prendre une communauté de hackers qui vont aller chercher des failles. Jusque-là, rien de phénoménal. Donc, on commence à chercher, on cherche des failles, il y a le pentest et autres, on met du service, on met du scanner automatique, mais on a toujours quand même des attaquants qui attaquent des entreprises et qui continuent de trouver des failles. En fait, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et on essaie toujours de régler ça par des solutions opérationnelles. Mais si la solution était sociétale, en fin de compte, ou si la solution était économique, je m'explique. Si, par exemple, on regarde les profils des attaquants, peut-être qu'on se rendra compte que 20% des attaquants le font parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils meurent de faim, ils veulent manger. Et peut-être que c'est un problème de répartition de richesses à l'échelle mondiale. Et donc, peut-être qu'en réglant un problème qui est la répartition de richesses, peut-être qu'on va neutraliser 20% des attaquants mondiaux. Et ça permettra vraiment de réduire le nombre d'attaques. Mais ça, les équipes sécurité, elles ne se posent pas la question de la répartition des richesses. C'est pas leur sujet. Le RSSI, ils s'en foutent, entre guillemets, de la répartition des richesses. Donc, on est dans des blind spots tout le temps. Parce qu'on nous a appris le modèle cartésien de « il faut décomposer un problème ». Et c'est bien, ça permet de donner des performances. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure avec la COVID, qu'on le veuille ou pas, tout est intimement lié. Le sociétal, l'économique, l'écologique, le politique, et un mouvement dont l'un implique les autres. Est-ce qu'on va réussir à créer des modèles qui nous permettent de lier tout ça et de prendre des décisions à tous les niveaux? C'est un des défis, je pense, de solutions potentielles qui viendraient traiter les limites, en fait, de ce genre de modèle très opérationnel, en fin de compte.
C'est un regard très intéressant. D'ailleurs, tu as abordé les deux autres sujets de travers, fait que c'est très intéressant. Justement, on va basculer au deuxième grand sujet, qui est les limitations justement, des intelligences, pas du AI, dans le cas de l'intelligence artificielle qu'on galvaude énormément, qu'on se trompe un peu sur sa fonction, effectivement. Il y a également le quantique aussi qui va venir changer les choses. Puis il y a peut-être des technologies qu'on ne voit pas actuellement, qui disent 5 à 10 ans, vont avoir une influence majeure à modifier comment on va aborder ce qu'on a maintenant on appelle le bug bounty ou les surfaces d'attaque ou tout ces technologies que tu parles de convergence qui effectivement vont changer. Mais ces technologies-là qui nous arrivent de côté, qu'on regarde, on voit dans notre rétroviseur encore, ben pas notre rétroviseur, mais qu'on voit arriver en avant nous, sont des précurseurs sur des limitations de la plateforme actuelle sur laquelle on ne sera peut-être pas capable d'aller plus loin, ou quitte à ce que ces technologies-là vont nous amener à faire évoluer le bug bounty aussi vers justement rechercher des bugs dans l'intelligence artificielle, parce qu'il y en a des bugs dans l'intelligence artificielle. Et dans le quantique également, là c'est encore un sujet peut-être un peu trop nouveau, mais on va trouver également des problèmes dans ces technologies-là, parce que au final, c'est des humains qui conçoivent ces technologies-là. Et incidemment, on prend généralement des raccourcis. Tu parlais d'une chose. La nécessité amène aussi, puis là, on va basculer après sur le troisième volet, le volet humain. Mais la nécessité va amener les gens à innover. Donc, de façon positive, comme on le voit avec le quantique, par exemple, de façon négative avec le bug bounty. Donc là, si on rebascule sur les limitations, parce que moi aussi, j'ai des vies un peu trop larges, c'est des sujets qui sont tellement interconnectés, tellement le fun, mais au niveau de la limitation, puis justement, comment ça aussi va se matérialiser sur soit l'évolution, soit l'approche qui va devoir changer?
Alors, sur les limitations, il y a des limitations très évidentes. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas tout tester avec du bug bounty, par exemple. C'est pas possible. Par exemple, le réseau intérieur de la société, on ne pourra pas le tester avec le bug bounty. Deuxième limitation très évidente, et là, il y a énormément d'études qui existent sur le sujet. Il y a une étude du MIT qui est sortie, il y en a beaucoup. C'est que on peut raconter tout ce qu'on veut sur les communautés des hackers et autres. Sur la communauté des chasseurs de bugs, dans tous les papiers de recherche que moi j'ai pu lire, donc des papiers de recherche qui sont par définition neutres, tous s'accordent à dire que la communauté de hackers éthiques réellement actifs qui gagnent de l'argent, elle est toute petite en fait. C'est quelques milliers à travers le monde. Donc, ça reste un très petit pool, très très petit pool quand même. Voilà, que effectivement, ça s'élargisse et que ça devienne, une tendance de vie, des chemins professionnels, des parcours professionnels pour certains, c'est super. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même garder en tête que le terrain de jeu de recherche de failles avec les ressources qui sont très très pertinentes ou qui gagnent aujourd'hui le plus d'argent, il est déséquilibré. Donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas compter sur le bug bounty pour résoudre pour détecter toutes les failles de sécurité possibles. Ça serait illusoire et ça serait extrêmement dangereux. Donc ça c'est les limitations les plus critiques, j'ai envie de te dire. Après, il y a les limitations d'ordre un peu plus, si je peux dire, souverain ou légal, c'est qu'on va quand même petit à petit dans des organisations, dans des sociétés où le souci de la géographie des stockages de données va devenir de plus en plus prépondérant. Tout le monde aujourd'hui a compris que chez qui on stocke les données et où on stocke les données est extrêmement essentiel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de stocker les données dans votre pays, il faut aussi que vous le stockiez chez un acteur avec qui contractuellement vous avez la capacité de vous assurer qu'il ne peut pas faire de transfert de données comme il veut. Et donc cette combinaison des deux va aussi être une contrainte pour les plateformes, on va dire un peu sur le modèle SaaS, qui peuvent répondre à certains besoins, mais qui, à un moment, sur des périmètres souverains ou de criticité nationale, vont quand même se retrouver sur un chemin rouge, parce qu'on parle quand même de stocker des vulnérabilités. Je veux dire, on ne stocke pas non plus des poèmes, là, on stocke des vulnérabilités critiques. Il faut mesurer le terme et le prendre de manière froide. Donc, voilà un peu les limites qui vont s'installer. Sur les technologies que tu as citées, l'intelligence artificielle, la quantique, effectivement, je pense que c'est des choses qui vont venir perturber, ouvrir des angles morts. Je pense qu'on est au début et qui vont amener soit de nouvelles solutions, soit des techniques qu'on ne peut même pas imaginer. Nous, en tout cas, qu'il y a des gens qui développent dans des laboratoires, mais nous, on est à des années-lumière d'imaginer ce que ça va pouvoir produire. Mais ça va dans le sens de ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire que d'un côté, ces nouvelles technologies, et tu l'as dit toi-même, et je ne ferai que répéter ce que tu as dit, deviendraient elles-mêmes un terrain de jeu pour chasser des failles. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que c'est vrai que sur ça, c'est difficile d'avoir une boule de cristal sur quelles nouvelles technologies pourraient émerger. Ce qu'on voit, si on prend la quantique à minima, c'est que aujourd'hui, il y a le post-chiffrement quantique qui devient un vrai sujet. C'est-à-dire que déjà, mathématiquement et d'un point de vue conceptuel, on commence déjà à avoir des preuves sur le fait que grâce à des ordinateurs quantiques, on pourrait casser des modèles de chiffrement dans des temps records par rapport à ce que les modélisations mathématiques qu'on avait aujourd'hui prévoyaient. Et tu sais très bien que le chiffrement, c'est quand même le cœur de la sécurité. Ça, c'est une des branches de la cryptographie, en tout cas. Hein. C'est une des branches essentielles de la sécurité. Et donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui de domination, hein, on va le dire tel qu'il est, parce qu'on sait depuis pas mal d'années que les États qui maîtrisent les avancées en termes de cryptographie sont des États qui ont accès à tout. Tu as un VPN que tu utilises, qui s'appuie sur un chiffrement que tu penses réputé incassable, alors qu'il y a un État quelque part qui a développé une technique qui permet de le casser en 3 mois, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout ce qu'on a imaginé s'effondre. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça. Moi, je reste... Voilà, la cryptographie et tous les modèles de chiffrement, c'est des sujets, je vais être un peu cru, c'est des sujets de guerre. Il faut considérer que c'est de la guerre. C'est pas d'innovation technologique, en tout cas dans la tête de certaines entités étatiques, c'est une guerre. C'est la guerre, elle est là. Et donc, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faudra être très vigilant. L'intelligence artificielle, je n'aime pas trop m'avancer dessus parce que je ne suis pas non plus un expert de ces sujets. Mais c'est vrai que j'ai vu, par exemple, les modèles adversariaux. J'ai vu que on peut, par exemple, induire des intelligences artificielles en erreur, par exemple, en injectant des parasites dedans ou en venant perturber l'échantillon de base sur lequel on s'appuie pour faire dire au modèle ce qu'on a envie de lui dire. Donc, ça veut quand même dire que on en revient à qu'est-ce qui fait l'unicité de l'être humain aujourd'hui. Et vraisemblablement, c'est notre capacité non pas à donner des réponses, mais à poser les problèmes. C'est-à-dire comment on va poser le problème pour avoir le bon échantillon, le bon modèle opératoire, la bonne expérimentation s'il le faut, le bon échantillonnage, etc., pour avoir les bonnes informations. Et là, encore une fois, la COVID a été un grand laboratoire d'apprentissage. Je ne veux pas ouvrir de polémiques stériles, mais je pense que ça nous a montré aussi que on n'était pas très bien expérimenté pour savoir ce que c'est qu'une bonne expérience scientifique. Et je renvoie à tous les sujets autour de la vaccination et des anti-vaccins, etc. On se rend compte qu'il y a aussi, par exemple, dans une bonne démarche scientifique, l'expérimentation, elle est faite pour démontrer que l'hypothèse de base ne marche pas. Donc, en fait, on va chercher une expérience qui essaiera de démontrer que ce qu'on a imaginé ne marche pas. Et si on n'arrive pas à démontrer que ça ne marche pas, ça veut dire que l'hypothèse est solide. Or, les gens, généralement, ils vont plutôt faire des biais de confirmation et ils vont plutôt mettre en place des expérimentations qui les arrangent. En disant, j'étais malade, j'ai pris tel médicament, j'ai guéri. Mais tu peux lui dire, mais en fait, tu étais malade, mais tu as bu de l'eau aussi et tu as guéri. Ça veut dire que l'eau t'a guéri aussi au passage. Donc, ton modèle d'expérimentation, il ne correspond à aucune base scientifique réelle. Et je pense que
c'est très intéressant parce que c'est comme ça naît des superstitions que de marcher en dessous d'une échelle, croiser un chat noir et ces éléments-là où c'est des façons que le cerveau humain a malheureusement des travers de qui va justement faire des mauvaises associations de causalité, mais d'inférence qui est trop faible pour arriver à une réelle causalité ou à un lien causal qui est fort. Là. Sinon, on fait juste des liens d'effets connexes.
Bah oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'appellent les scientifiques les deux vitesses du cerveau. Donc il y a le premier cerveau qui est sur l'intuition, qui prend des décisions super vite. C'est ce qui nous permet de traverser la route et tout. Et puis il y a le cerveau un peu plus long qui va résoudre des problèmes de manière longue. Mais le premier cerveau, la première vitesse d'ailleurs, qui prend le contrôle rapidement, il va toujours chercher à valider nos premières intuitions. Et c'est là où on se fait avoir dans les énigmes, dans les petits exercices de logique. Je pense qu'une des expériences les plus intéressantes, d'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent comprendre les théorèmes de Bayésien et compagnie, c'est l'expérience de Linda. Je ne sais pas si tu la connais ou pas, mais c'est une super expérience. En gros, on te dit, on te montre ces deux psychologues qui avaient fait cette expérimentation. Ils avaient soumis un groupe de personnes un profil d'une dame. Alors, j'ai oublié en détail, mais en gros, ça disait, voici Linda, elle a 30 ans, elle est hyper jeune, elle était très brillante dans ses études, elle a fait des études en philosophie auparavant, elle était très sensible à la cause féminine quand elle faisait ses études et autres, et elle est sortie d'une grande école de commerce. Parmi ces deux propositions, quelle est la plus probable? Linda est bancaire, où Linda est bancaire et féministe. Et en fait, 85% des gens disent bah c'est bancaire et féministe. Sauf que si tu as un minimum de base mathématique, tu sais que l'ensemble bancaire et féministe est un sous-ensemble de l'ensemble bancaire. Donc, d'un point de vue probabiliste, c'est forcément moins probable que l'ensemble bancaire. Elle est forcément, elle a plus de chances d'être, elle est plus probablement une bancaire qu'une bancaire et féministe qui est une section, en fait, du grand ensemble. Mais cette première intuition qu'on t'a créée via le profil, qu'elle est engagée et tout, tu cherches très vite à la valider et en fait, tu vas opter rapidement pour elle est bancaire et elle est féministe. Et tu vois, tous ces travers-là, dans un monde confronté à de la data, dans un monde data-driven, bien en fait, aujourd'hui, on est vraiment vulnérable parce que les gens, tout le temps, ils se font avoir par ce premier cerveau, moi le premier. Il faut pas croire que moi, je maîtrise, moi le premier. On se fait avoir systématiquement par ce premier cerveau qui va, dans un rapport, dans un graphe, très vite nous essayer de valider ce qui est plausible ou ce qu'on a envie de savoir au détriment du temps long, c'est-à-dire au détriment de se poser, de réfléchir, de remodéliser, de se dire, mais si je devais vraiment valider ou invalider, comment je poserais le modèle? Voilà, donc de la logique et de la science et des mathématiques, etc. Donc, grande digression pour revenir au fait que je pense que peut-être pour étendre et ouvrir la dernière vague, tout cela, si on prend un peu de hauteur, tout ce qu'on est en train de dire, les plateformes, la COVID, les crises, l'incertitude écologique et ça, tout ça, et d'ailleurs le bug bounty s'inscrit dans ça, il peut pas vivre à part entière, on est dans des sociétés interconnectées, tout ça est en train de remettre de manière foncière et fondamentale l'organisation du monde de l'emploi ou du travail. Mais moi, je préfère parler de l'emploi parce que le travail, c'est très particulier. Hein. On peut faire du travail sans être salarié, alors que de l'emploi, on est forcément salarié. Donc, le monde de l'emploi est en train de changer avec, par exemple, on ne peut que constater que le nombre de freelancers n'arrête pas d'augmenter. La grande résignation, hein, la grande démission qu'on est en train de voir, tous ces indicateurs-là, c'est pas de la mode. C'est qu'il y a quelque chose dans notre organisation qui est en train de changer, qui est que quelque part, peut-être qu'on va renetworker, trouver de nouveaux réseaux pour qu'on puisse en fait avoir de l'emploi dans nos sociétés. Donc c'est un vaste sujet qui s'ouvre à nous, dans lequel peut-être que les sociétés ne disparaîtront pas, mais peut-être que le rôle des sociétés de demain, ça va être de fédérer des réseaux d'intelligence humaine ou artificielle, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de la société.
Ah, mais de toute façon, l'exemple du crowdsourcing comme le bug bounty est un bel exemple de ça. On a eu d'autres exemples de création destructive, un peu comme les plateformes comme Uber, Airbnb ou toutes ces plateformes-là qui ont amené un changement de réflexion à comment le lien de rémunération change, parce que dans le fond, c'est le lien de rémunération qui doit être évalué, comment celui-ci est régi. Dans le cas d'Uber, ben là, il y a eu un aspect très toxique à ce que c'est, ouais. Là, c'est de plus en plus divulgué. Cependant, ça a amené une réflexion très profonde sur le marché du transport. Il faut pas enlever quand même les effets de réflexion qu'ils ont obtenus. Sure. Et donc, le changement de comment le lien de rémunération se fait et la juste rémunération aussi, parce que tu as fait quand même une allusion à tout le ouais. volet du problème social. Puis, là, on parlait du bug bounty, mais la criminalité en général est liée au fait que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Et en plus, dans lequel ces gens-là, on leur met à plein visage une richesse qui est inaccessible. Donc, on crée de l'envie en plus ces gens-là. Fait que on a deux volets très importants qui, socialement, viennent créer ce problème-là. Puis c'est pas un hasard pourquoi en Russie et en Chine, on a des armées complètes de hackers, parce que l'argent était très rare, les rémunérations étaient très faibles dans ces pays-là. Donc, ça a amené la nécessité de se trouver des sources de revenus qui a amené à une spécialisation à la limite à l'extrême de ces facteurs-là, de ces habilités-là qui maintenant nous causent des soucis d'un point de vue mondial parce que on est un peu coupable de cette spécialisation-là de ces gens-là, comme les crimes organisés c'était dans il y a un certain nombre d'années, puis même maintenant on peut considérer qu'il y a des syndicats criminels de hackers qui existent, puisqu'on le voit beaucoup, puis c'est de plus en plus les groupes APT qui sont définis. Là, on donne des groupes, là, on parle de là, c'est selon la terminologie qu'on prend, là, on prend des ours en Russie, par exemple, chez certains, de façon de le nommer, mais ces groupes-là s'organisent en corporation, en société, en sous-traitant également. Enfin, on est en train de créer un univers qui s'est créé autour de ces éléments-là qui sont fondamentalement très humains et qui cherchent à survivre dans un monde difficile.
Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
Donc, j'ai vidé le sujet à moi-même.
Non, mais c'était une très bonne conclusion, je pense, finir sur le côté sociétal. Je pense que aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut imaginer ne peut pas être juste entre les murs de l'entreprise, en fait. C'est peut-être le plus grand apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, les murs de l'entreprise sautent, comme d'ailleurs les murs de la vie privée, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'avec le remote, on a amené le travail chez soi. Donc, en fait, il y a des frontières qui sont en train d'être totalement redessinées. C'est très difficile de dire à quoi va ressembler tout ça, hein. C'est pas ma prétention. Mais il semble quand même que dans quelques années, les entreprises telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus. En tout cas, elles auront changé radicalement de figure. Et c'est peut-être ça, la plateformisation est quelque part le reflet de ce changement-là, de cette nécessité d'aller collaborer avec les bonnes personnes, où qu'elles soient en fait, où qu'elles soient. Donc, c'est ça le vrai sujet, c'est que on va devoir travailler ensemble, s'aider, s'entraider, collaborer, et il n'y aura pas toujours besoin d'être avec un t-shirt particulier entre quatre murs. Voilà, il y a ça, ces notions sont en train petit à petit de s'effacer. Ça ne veut pas dire que la nécessité de se retrouver physiquement va totalement disparaître. Pareil, moi je ne tombe pas dans ce travers-là parce que mine de rien, on a des siècles de conditionnement entre nous, les humains, qui font que ben, on développe aussi des relations par la rencontre, le lien physique. Mais il y a une nouvelle dimension qui est en train de s'installer, qui est cette idée du réseau, pouvoir utiliser des réseaux de connexion numérique pour réimaginer peut-être la manière avec laquelle on peut collaborer entre nous, et donc de nouvelles formes d'emploi. Qui sera l'employeur, qui sera l'employé, l'avenir nous le dira.
C'est également une façon de redistribuer la richesse, cette plateforme-là, de façon de c'est privé, que ce soit pas l'État qui vienne s'immiscer à la répartition de la richesse. C'est peut-être une certaine forme de solution contrôlé par des compagnies pour justement distribuer cette richesse-là qui était inaccessible. Si on parle au niveau des hackers, le bug bounty est un bel exemple à ce moment-là d'éviter que ces gens-là se tournent vers le crime, se tournent vers de façon légitime, puis de fond de les payer de façon adéquate pour les amener dans cette direction-là, puis dans certains pays, parce que c'est ça qui est intéressant à la raison à certains égards, comme c'est souvent payé en euros ou en dollars américains. Les bug bounty pour des pays qui sont où le taux de change est très important. Bon, on va prendre l'exemple la Russie, par exemple. Ça présente un revenu très important pour ces gens-là dans un pays où dans lequel ce type de revenu-là devient quasi démesuré par rapport aux revenus locaux dans lesquels ils sont. C'est sûr que celle-là, ça a des effets plus des ramifications plus importantes, mais quand même, cette répartition de richesse-là, à mon sens, est très importante et va diminuer la criminalité en certains égards. Donc, spécialisé dans des acteurs étatiques, donc ce ne sera plus juste du crime organisé. Donc, on va s'enlever une partie de la menace, justement pour aider ces gens-là à gagner une vie décente.
Tout à fait. Nous sommes d'accord.
Donc, bon, on va conclure sur ça, là, avec tout cet élément philosophique-là. Merci énormément pour ton temps et ta générosité. Ça a été un très beau survol de ce que le bug bounty, comment ça a le bénéfice et où on s'en va avec ça et comment on va pouvoir l'utiliser pour s'améliorer.
Je te remercie pour ton temps, toi aussi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir.
Merci.